quelques autres tâches un peu moins agréables de gardien du temps qu'on nous assigne souvent. Mais voilà, alors bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc nous sommes dans un réseau qui travaille continuellement. La Covid, les confinements n'ont pas réussi finalement à atteindre notre motivation et surtout la vôtre. Et vous avez été très nombreux, malgré les aléas sanitaires, à vous mobiliser en 2021. Et nous avons réussi donc à tenir nos 3 séances annuelles. Et pour cela, évidemment, nous vous renouvelons nos remerciements. Alors, en cette année 2021, nos travaux avaient été dédiés à l'identification des injonctions contradictoires que nous vivons quotidiennement au cœur des projets urbains. Et puis, surtout, au partage des leviers pour dépasser ces injonctions contradictoires. Alors on s'est réunis à plusieurs reprises autour de la limitation de l'artificialisation des sols, sur le déplacement des frontières entre les acteurs de la chaîne de l'aménagement, et puis la part commune que nous souhaitons défendre dans nos projets à l'avenir, et enfin les défis de la relance, la qualité de la construction, et plus largement évidemment la ville bas carbone. Alors tous ces travaux, avec les nombreuses synthèses, les supports, parfois les replays quand ça a été filmé, sont disponibles sur le site internet. Vous avez les références dans le dossier qui vous a été remis. Tous ces travaux, ils sont très riches, et vraiment nous vous invitons évidemment à puiser dedans, à vous en inspirer, à les relayer, parce que c'est aussi largement une vocation de ce réseau, de démultiplier entre les acteurs publics et les acteurs privés tous ces retours d'expérience et toute cette matière pour notre acculturation à tous. Alors quels sont les enseignements de cette année 2021 ? Bon, travailler sur les gains bas carbone à l'échelle de l'immeuble, c'est un risque pour l'avenir. Il faut que nous arrivions à travailler à d'autres échelles, activer d'autres échelles, d'autres leviers, aux bonnes échelles pertinentes, dont évidemment celle de l'aménagement, celle du quartier. Et donc ça, ce changement de la focale, on a pu voir au cours des séances que c'était valable sur l'aérolique urbaine, sur le bioclimatisme, sur le fonctionnement hydraulique, sur l'équilibre de la nature et des espaces naturels en ville. Tout cela, nos travaux depuis 4 ans en témoignent. Et il y a de nombreux défis à intégrer pour la ville au-delà du bas carbone. Effectivement, face à l'ensemble de ces défis de la ville durable, certains aménageurs ont su porter des nouvelles missions internes qui sont non traditionnelles. Ils ont, comme on peut citer, le déploiement temporaire de réseaux de chaleur, le portage de mobilité propre, le portage de stationnement mutualisé, la renaturation d'espaces naturels, l'aération des milieux urbains, autant de missions qui n'étaient pas autrefois dans le cœur des missions des aménageurs. Et la capacité de ceux-ci à étendre ce champ de mission traditionnelle aura évidemment un rôle absolument déterminant dans la capacité à développer de nouveaux morceaux de ville et les territoires qui les englobent de manière effectivement plus conforme aux enjeux de la transition écologique et environnementale. Mais alors se pose évidemment la question de la capacité financière à généraliser ce genre de pratique, à soutenir aussi les collectivités locales qui sont pilotes de l'aménagement dans ce sens. Alors, on a également pu constater que, au-delà de l'élargissement de ses missions, l'aménageur a un rôle fondamental pour être stimulateur, prescripteur en tant qu'évidemment, régulateur, accompagnateur des acteurs partenaires de la fabrique de la ville. Évidemment, on pense aux promoteurs, aux bailleurs, aux investisseurs, à tous les constructeurs. Et tout cela est évidemment essentiel pour porter collectivement les ambitions de la ville durable. La ministre Emmanuelle Wargon, la directrice générale de l'aménagement de la nature, du logement et de la nature, Stéphanie Dupuillon, ont salué à l'occasion de notre séance de novembre notre capacité collective à anticiper et à entrer en résonance en permanence avec les préoccupations et les actions du ministère. Nous avons effectivement, depuis 2018, largement anticipé les enjeux qui sont ceux portés dans la démarche Habiter la France de demain. Et donc, nous savons que le ministère apprécie que le réseau et la filière de l'aménagement dans son ensemble se placent ainsi de façon continue dans une posture d'interrogation collective face à tous ces défis qui sont tout de même extrêmement complexes. Et donc nous sommes effectivement heureux de continuer à travailler tout le réseau professionnel et en étroite adéquation avec ses ambitions gouvernementales. Alors on est heureux de poursuivre évidemment avec vous et d'entamer un nouveau cycle, et un cycle que nous avons intitulé collectivement, hein, le CODIR du RNA, Oser l'aménagement. Et donc vous êtes aujourd'hui 300 personnes inscrites à cette séance, donc nous sommes nombreux à avoir envie d'oser, et bien donc osons, et je passe la parole à Nicolas.
Oui, ben bonjour à tous, alors effectivement osons, oser aménager, parce que nous en sommes profondément tous convaincus, ainsi que la ministre, comme elle l'a rappelé au mois de novembre. Alors oser pour avec et auprès des collectivités, parce que l'aménageur est bien entendu la cheville ouvrière de tous les compromis de la ville que nous avons à confronter. Donc toutes les ambitions ne peuvent se cumuler d'un seul tenant au risque d'échouer. Donc face à une courbe d'apprentissage inévitable pour l'ensemble de la filière. Et on parle bien de filière, j'insiste, et on en parlera tout à l'heure avec Jean-Marie Kimener et Anne Fraisse. L'aménagement est aussi un moyen d'éviter l'écueil de tout miser sur un sujet, un immeuble, une particularité, un démonstrateur, pour davantage diversifier les ambitions de manière peut-être plus modeste, mais surtout mieux ciblée à l'échelle de macro-lots, de sous-opérations, et en tout cas de cause pour massifier tout ceci au sein d'un projet urbain, au bénéfice de tous les usagers, bien entendu. Donc l'aménagement est opérationnel, donc ceci est un moyen important de veiller aux équilibres entre les divers objectifs et de manière contextualisée. Éviter par exemple une ville bas carbone exclusive, ou plutôt organiser une péréquation entre recyclage optimal et artificialisation minimale, en faveur d'un développement équilibré et solidaire des territoires. L'aménageur est aussi souvent le seul acteur de long terme d'un projet urbain. Il aide à tenir le cap, les fondamentaux d'un projet auprès de la collectivité, malgré tous les mouvements, face aux nombreuses occasions d'abandonner certaines ambitions avec le temps ou le suivi d'un certain nombre de modifications réglementaires ou législatives. La philosophie du projet doit rester. Et l'aménagement opérationnel est aussi un outil essentiel à la production de la ville de demain, puisqu'il permet de travailler donc à des échelles opportunes de temps, d'espace, de partenariat, on l'a dit tout à l'heure, de moyens et de masse critique. Donc c'est un maillon essentiel qui permet d'expérimenter, de faire les meilleurs compromis possibles entre toutes les ambitions auxquelles on souhaite s'attaquer, et bien d'identifier les solutions inspirantes ou réplicables. Il permet aussi une montée en compétences des acteurs de la ville durable. Et l'aménageur a vraiment un rôle essentiel là-dessus. Donc dans cette période où la prise de risque, l'engagement sur le temps long, porter l'acte de bâtir peut faire peur et demande du courage, nous sommes absolument convaincus qu'un virage est à prendre et qu'il est au contraire nécessaire, certes d'évoluer, mais aussi d'amplifier l'acte d'aménager. D'où la notion d'oser l'aménagement. Donc cela ne pourra se faire qu'avec l'engagement de chaque acteur, à commencer par nos collectivités donneuses d'ordre. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir ce matin M. Viau, maire de Grasse, et M. Le Gall, élu de Libourne, qui s'engagent avec conviction pour leur territoire et croient en la force de l'aménagement urbain. Je les remercie très sincèrement. Nous aurons donc ce cycle avec cette première journée dédiée au faire avec l'existant. Donc j'en profite, on tient à remercier bien entendu l'ensemble des intervenants, l'ensemble des animateurs, c'est pas un rôle très facile. Nous aurons une journée riche, un programme rythmé, des groupes de travail cet après-midi. Et donc, ben, on va y aller tout de suite. Et on va commencer par donner la parole à Jean-Marie Kemener, qui représente ce matin la DHUP, et Anne Fraisse, qui fait partie du CODIR du RNA, et qui vont vous parler de la feuille de route décarbonation. Vous allez voir, pour la filière aménagement, c'est fondamental. Merci à tous et bonne journée.
Bonjour à tous. Donc, en premier lieu, je voulais excuser Jean-Baptiste Duclet, le sous-directeur d'aménagement durable, qui n'a pas pu se joindre à nous. Et puis, comme vous le savez, d'habitude, au RNA, on fait un petit point d'actualité juridique et de politique publique, mais la période de réserve préélectorale nous impose en fait de marquer une forme de discrétion aujourd'hui sur ces questions-là, et on reprendra un cycle normal pour la prochaine édition. Mais du coup, le choix qu'on a fait avec Anne, c'est de vous présenter en fait des travaux que nous sommes en train de lancer. Et Anne a gentiment accepté d'en assurer la coprésidence, à savoir la mise en place d'une feuille de route pour décarboner la chaîne de valeur de l'aménagement. Alors, quelques éléments pour vous expliquer dans quel contexte en fait cette démarche s'inscrit. En premier lieu, je fais un petit parallèle sur un petit saut sur la politique énergétique européenne et la politique énergétique de la France pour vous dire que en fait on est dans un objectif européen de neutralité carbone à 2050. Donc ça c'était déjà un objectif qui existait, qui est traduit dans la SNBC, stratégie nationale bas carbone. Mais les ambitions ont été revues à la hausse au niveau européen au lieu d'avoir un objectif de moins 40% des émissions nettes en 2030, on passe à un objectif de moins 55% des émissions brutes en 2030, ce qui rehausse sensiblement l'objectif, et ça a été porté par une loi européenne, et ça va s'accompagner d'un paquet législatif européen qui s'appelle Fit for 55, qui va comporter une douzaine en fait, de textes d'application en fait, de cet objectif-là, et qui va se décliner notamment sur les filières. Alors, la France a l'obligation en fait, d'intégrer dans son droit cet objectif de la loi européenne, et elle va se décliner de deux manières. En premier lieu, le Parlement français a pour obligation d'examiner en fait, une loi de programmation pour l'énergie et le climat à l'été 2023. C'est un chantier qui va commencer très très rapidement après les scrutins à venir. Et cette loi de programmation va fixer donc des objectifs dont les modalités et les moyens de mise en œuvre en fait, seront portés par la stratégie française pour l'énergie et le climat, SFEC pour son petit nom. Alors, parallèlement à tout ça, la loi climat résilience, en fait, dans son article 301, le législateur a introduit un article qui énonce le principe que les secteurs les plus émissifs en fait, en termes de gaz à effet de serre doivent construire une feuille de route de décarbonation de leur chaîne de valeur. Donc c'est ce travail de feuille de route. Donc c'est un moment assez charnière parce qu'en fait on demande finalement aux filières économiques de se saisir de la question, de dimensionner en fait une trajectoire et puis des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'ensemble des propositions en fait qui émaneront des filières en fait de ces feuilles de route sont destinées à la fois alimenter la loi de programmation pour l'énergie et le climat et à la fois la stratégie française pour l'énergie et le climat. Donc derrière, on va pouvoir faire des propositions en termes de leviers fiscaux, leviers réglementaires, moyens d'action en fait pour atteindre ces objectifs.
Alors, rapidement, effectivement, cette feuille de route s'inscrit dans les 14 feuilles de route qui sont aujourd'hui identifiées dans la mise à jour donc, de la stratégie nationale bas carbone. Quelques-unes vont être lancées, sont lancées actuellement. Vous les voyez donc à l'écran, et pour la première fois, donc beaucoup sur les transports, les mobilités bien évidemment, l'agriculture et celle qui nous intéresse ici, donc le bâtiment. Habituellement, effectivement, l'aménagement et le bâtiment étaient souvent agglomérés, vus ensemble. Pour la première fois, on a effectivement une feuille de route sur l'aménagement, qui va donc de l'aménagement à la promotion, et finalement qui est une feuille de route amont, identifiée comme une chaîne de valeur en tant que telle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la première fois que l'on a cette opportunité de faire filière, de montrer effectivement que nos actions sur la décarbonation sont en amont d'un certain nombre d'autres feuilles de route. Et bien évidemment, les interfaces sont fortes avec d'autres filières. Je pense par exemple au transport, dans l'aménagement, c'est évident. Également sur la filière du bâtiment, puisque bien sûr, l'aménagement découle sur la production de la ville et donc la construction ou la rénovation du bâtiment. Alors cette chaîne de valeur chapeau, elle a des acteurs qui sont spécifiques. On l'a identifié à date de cette façon. On peut l'enrichir, bien évidemment, avec, d'une part, donc, les collectivités, qui sont très largement, aux côtés de l'État, bien sûr, des prescripteurs, avec tous les éléments de planification, les SCOP, les PLU, voilà, qui sont un élément fondamental dans la création de la ville et dans l'organisation de cette ville. Donc, dans l'aménagement, c'est effectivement un point de départ essentiel. Les aménageurs, donc vous êtes certains d'entre vous ici, donc, qui porte finalement la production de cette ville, soit avec un foncier nu, il y en aura de moins en moins, mais bon, un foncier nu qui est aménagé donc pour produire la ville, soit un foncier recyclé, et on va clairement dans cette trajectoire-là, avec la loi climat et résilience notamment, et le zéro artificialisation nette. Donc cette dimension-là, elle impacte directement nos métiers, et la décarbonation, bien évidemment, s'inscrit là-dedans. Des donneurs d'ordre également, et notamment toutes les entreprises de TP, de travaux publics, donc qui sont différentes de celles du bâtiment, c'est pas du tout la même logique, donc qui viennent là aussi contribuer très largement à la question de la décarbonation de la ville. Et pour finir, donc, j'ai envie de dire sur cette chaîne, les promoteurs qui sont à l'articulation donc de la chaîne de valeur de l'aménagement et de celle du bâtiment, puisqu'on voit de plus en plus qu'un certain nombre de promoteurs remontent vers l'amont autour de l'aménagement et d'autres, effectivement, et se préoccupent bien sûr aussi de la construction. Donc on est sur une profession assez charnière. Voilà, donc cette chaîne de valeur va s'enrichir donc au fur et à mesure du démarrage de cette feuille de route. Et je vais laisser donc Jean-Marie expliquer un petit peu la méthodologie vers laquelle on va s'orienter.
En fait, la méthodologie, elle est un peu cadrée par le Commissariat général au développement durable qui chapeaute en fait la méthode pour l'ensemble des feuilles de route. Donc, on est un peu dans le même carton pour l'aménagement, le transport aérien, le transport automobile. Donc, la principale idée, c'est d'abord de cartographier la chaîne de valeur de l'aménagement avec toute cette difficulté qui va être de se poser la question de où elle commence, où elle s'arrête, où est produite la valeur. Avec une discussion importante et qu'on voit déjà apparaître, qui est que la chaîne de valeur de l'aménagement, finalement, c'est aussi une chaîne de valeur qui est socle pour la décarbonation d'autres filières, notamment quand on parle de mobilité. Une fois qu'on aura cartographié, il s'agira d'identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là, avec une difficulté qui va être peut-être technique, qui va être de quantifier finalement ces sources d'émissions. Donc je pense qu'on va être obligé d'apporter des méthodes approchantes parce qu'on n'aura pas le même niveau de précision que par exemple ce qui a été fait dans le transport aérien. Une fois qu'on aura identifié ces sources d'émissions, l'idée c'est en fait d'identifier les leviers de réduction de ces émissions. Et enfin, de définir une trajectoire en fait, de décarbonation qui soit compatible avec cet objectif de Fit for 55. Alors, la discussion qu'on voudrait avoir avec Anne dans le cadre de ces travaux-là, en fait, c'est de hiérarchiser les leviers, suivant d'abord les coûts d'abattement du carbone, parce qu'en fait, les leviers n'ont pas avoir le même impact financier. Une discussion autour de la hiérarchisation, on regarde la maturité technologique de ces leviers, parce qu'il y a des choses qui sont disponibles aujourd'hui, encore des choses qui sont peut-être dans le domaine de la recherche, qui n'ont pas de modèle économique. Et enfin, discuter des freins économiques et juridiques autour de la mise en œuvre de ces leviers, de la sorte à les hiérarchiser et derrière découler des propositions qu'on fera et j'espère apparaître dans la feuille de route afin d'alimenter les travaux de la loi de programmation sur l'énergie et le climat et la stratégie française pour l'énergie et le climat.
Alors, pour terminer effectivement sur cette méthode, donc on a prévu aujourd'hui, donc on co-préside effectivement cette feuille de route avec donc des co-rapporteurs donc qui sont issus des différents acteurs qui participent à cette chaîne de valeur. On a prévu donc une phase d'état des lieux avec un recensement à date, notamment des productions en matière de décarbonation dans l'aménagement. Et c'est effectivement une filière qui n'existe pas forcément en tant que telle, et donc avec des productions qui sont probablement moins nombreuses, par exemple, que dans la filière aéronautique ou sur des filières de transport ou l'automobile, qui sont des filières, si vous voulez, constituées depuis longue date. Donc on a un travail d'inventaire qui est assez fort. Ensuite, effectivement, les leviers, donc Jean-Marie en a parlé, donc les leviers de décarbonation qu'on essaiera d'identifier avec un point qui m'importe beaucoup, c'est qu'on crée la ville, on crée effectivement donc, dans notre métier la possibilité pour la population de se loger, et l'idée, c'est quand même toujours d'avoir une corde de rappel, si je peux me permettre de le dire ça comme ça, sur la question de l'acceptabilité en termes notamment du prix. C'est-à-dire que ce qu'on doit portée là en termes de levier de carbonation, ça ne doit pas aboutir à l'exclusion au niveau du logement. C'est quelque chose qui est assez important, qui est un peu particulier dans notre chaîne de valeur, mais on doit avoir ce prisme-là qui est aussi à prendre en compte dans cette feuille de route. Ce qui rend l'exercice particulièrement intéressant mais difficile. Effectivement, identifier ces trajectoires de réussite et finaliser la feuille de route donc au premier trimestre janvier 2023, donc c'est assez rapide hein, en termes de délai. Donc on va s'organiser avec un premier copil donc, qui est prévu d'ores et déjà le 27 avril. Et il y en aura donc trois autres d'ici janvier 2023. Et évidemment, on aimerait bien que vous puissiez tous contribuer parce que vous êtes tous acteurs de la ville ici. Donc, dans le dossier du RNA, vous avez une fiche très rapide, mais qui explique cette démarche. Et on est vraiment ouvert à toute proposition et surtout expérience, retour d'expérience ou levier que vous identifieriez pour venir abonder cette feuille de route sur la décarbonation. Voilà, donc n'hésitez pas, on est disponible, Jean-Marie comme moi, pour recueillir vos pistes de travail qui nous seront précieuses.
Merci beaucoup. Et je suis très heureux que l'aménagement soit considéré comme une filière et non plus comme un simple métier. Je pense que c'est très important. Voilà. Donc tout de suite la première table ronde. On est à peu près dans le timing, donc c'est très bien. Donc séquence numéro 1, comment rendre active une ville productive par recyclage de l'existant? Comment en donner envie aux usagers et en réussir leur appropriation? Donc, un thème assez intéressant. Donc, table ronde animée par Vincent Bougamou, qui est directeur général de la Fabrique des quartiers. Et j'appelle également donc, les personnes qui vont y participer, Bernard Reichen, l'agence Reichen de Robert et Associés, Sébastien Patéron, directeur adjoint de l'aménagement et directeur opérationnel du renouvellement urbain de la Serge, Montpellier, Guillaume Equet, directeur de l'aménagement et du développement immobilier de Villogia, et enfin Arnaud Baudel, directeur général de développement, histoire et patrimoine. Vous pouvez vous installer à la table. Voilà.
Bonjour à vous tous. Je suis Vincent Bougamon, je suis directeur général d'une société publique locale d'aménagement de la métropole européenne de Lille qui s'appelle la Fabrique des quartiers et dont l'enjeu, l'ADN, c'est la requalification et la revitalisation des quartiers d'habitants anciens dégradés. Donc qui est complètement dédié finalement à des opérations de recyclage urbain, en habitat et aussi en petite friche. Merci de cette invitation à animer dans un rôle dont je ne suis pas familier. Et merci en particulier à Émilie Touchard pour sa mobilisation très active dans la préparation de la table ronde. Donc je suis accompagné de, mais vous les connaissez, ils se présenteront à tour de rôle. Avec moi, Bernard Reichen de l'agence, évidemment, Reichen et Robert Associés, Sébastien Patron de la CERM à Montpellier, qui travaille d'ailleurs sur des sujets comparables à ceux de la Fabrique des quartiers, Guillaume Equet, directeur de l'aménagement et du développement immobilier à Villogia, donc un collègue métropolitain, et Arnaud Baudet, directeur général développement histoire et patrimoine, qui intervient aussi, qui montrera des projets notamment sur le département du Nord. La question qui nous est posée, celle de l'attractivité d'une ville produite par recyclage de l'existant et son appropriation par les habitants. Je crois qu'il faut ajouter aussi son appropriation par toute la chaîne des professionnels, parce que l'exemple qui est le nôtre de la Fabrique des quartiers sur des micro-projets de renouvellement urbain montre que il faut de la ténacité, il faut oser, il faut inventer pour attirer des partenaires qui ne sont pas toujours intéressés par des micro-projets de renouvellement urbain moi j'appelle ça de l'urbanisme homéopathique, dans des quartiers qui ne sont pas toujours simples, avec des commercialités qui ne sont pas toujours évidentes. Vu de la métropole européenne de Lille, dont je viens, la question du renouvellement urbain n'est pas un sujet tout à fait nouveau, c'est une question qui s'est imposée dès les années 80, bien évidemment à la suite de la déprise industrielle qui a été brutale et qui a produit nombre de friches industrielles, mais aussi de nombre de friches d'habitats. Ça a généré dès les années 90-95 une politique à part entière, la politique de la ville renouvelée, et des programmes d'investissement assez importants pour réinventer la ville sur elle-même dans des quartiers qui avaient été marqués par cette déprise industrielle. En juin 2009, la métropole européenne de Lille avait pris une délibération sur la ville intense, dont les enjeux c'était de promouvoir une certaine densité dans les opérations d'aménagement, une densité acceptable et supportable, je crois que c'est un sujet qui sera abordé, également pour lutter contre l'extension urbaine en champ de patates, parce qu'on avait un territoire dont l'urbanisation était exponentielle. Aujourd'hui, la question du renouvellement urbain de la ville sur elle-même, elle revient, elle s'impose à nous avec une force et une acuité nouvelle, dans, je dirais moi, une approche à la fois plus globale et plus généralisée qui se pose à l'échelon du territoire national, là où elle se posait, de mon point de vue, sur des quartiers qui avaient été notamment frappés par la déprise industrielle. La région Nord-Pas-de-Calais en est emblématique, mais elle n'est pas la seule. Avec des enjeux nouveaux, la politique de la lutte contre le réchauffement climatique, ça a été évoqué, l'objectif du zéro artificialisation net, la reconquête des centres anciens trop longtemps délaissés, et puis aussi des enjeux nouveaux ou des manières de poser des questions nouvelles. Par exemple, faire une ville bas carbone à santé positive à Lille, je salue Stanislas Landivel que j'ai aperçu tout à l'heure, ou encore la ville des circularités à Roubaix, quand même des choses, des terminologies nouvelles, des enjeux nouveaux qu'on doit prendre en compte et qu'on doit s'approprier aujourd'hui. Cette évolution est conduite également à reconsidérer ces friches et ces délaissés. On les a regardés longtemps comme des plaies ouvertes sur une histoire qui était un peu douloureuse, et donc de manière négative, et on les voit aujourd'hui davantage comme une ressource, un potentiel pour développer des projets et encore une fois la ville sur elle-même. Pour autant, ces enjeux de réappropriation et de recyclage ne vont pas de soi. En quoi nous oblige-t-il à changer de regard, à revisiter nos modes de faire, à réinterroger nos modèles économiques? C'est toute la question et tout le défi. Je pense que ce sont des sujets qui pourront être abordés, développés au fil des interventions de ces tables rondes. Bernard Rachienne, puisque c'est vous qui avez l'honneur et le privilège de commencer. C'est un sujet que vous connaissez bien car vous y travaillez depuis de nombreuses années, notamment sur la métropole lilloise. Je vous disais lors de la réunion de préparation que les locaux de la Fabrique des Quartiers étaient dans un bâtiment industriel que vous aviez réhabilité dans les années 80. J'ai vu que vous m'aviez fait un petit coucou en mettant une image dans votre PowerPoint, celui du bâtiment de la Filature à Moulins. Nous avons travaillé ensemble dans les années 90 à l'émergence du pôle d'excellence de l'Union, un éco-quartier intercommunal sur un ensemble de friches industrielles aux confins de Roubaix, de Tourcoing et de Wattrelos. Deux projets, deux échelles d'intervention et deux expériences très différentes. Vous êtes actuellement, notamment, urbaniste de l'opération du Bas-Chantenay à Nantes, dont l'aménageur est Nantes Métropole Aménagement. Je salue Vincent, aussi de la métropole que j'ai aperçu, qui est un ancien collègue de la métropole européenne. Quels sont aujourd'hui pour vous les enjeux? Comment se sont-ils re-questionnés? Comment les avez-vous revisités? Moi, j'ai entendu dans la réunion de préparation que vous disiez que vous préfériez les IC plutôt que les AC. Je vous ai entendu parler de liens et de lieux. Vous avez dit votre conviction de projet situé, mais inscrit aussi dans des dynamiques de territoire beaucoup plus larges. Qu'en est-il? Si vous avez la parole, 14 minutes, pour nous raconter tout ça, moins 4 minutes que je viens de vous voler. Donc je suis désolé. Je ne sais pas si vous voulez présenter ici ou si vous le... Non, moi je ne vous laisse la place si vous voulez.
Non, je peux aussi parler.
Bon, vous avez un PowerPoint très nourri, très riche, Bernard. Donc
j'ai compris la règle du temps. Bonjour à tous. Je vais déjà faire une petite remarque qui m'est apparue ce matin en regardant mon téléphone dans le métro. C'est-à-dire, je suis tombé sur une proposition d'investissement immobilier dans le métaverse. Dans le monde virtuel, Et je me suis dit que Zuckerberg avait sûrement un problème avec l'existence, parce que l'existence, c'est ce qui gêne son business de la virtualité. Mais que quand on fait de l'urbanisme, quand on fait de l'aménagement, on se doit d'aimer passionnément l'existence. C'est pour moi une imposition absolue, parce que c'est la règle des récits. C'est-à-dire qu'un récit, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui est continu. Et actuellement, la question statistique, la question de l'exigence de résultats est essentielle, la question du prix aussi. Mais la question de la continuité du récit peut être encore plus, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une révolution, et c'est la construction des milieux habités de demain. Et je voulais vous montrer cette image, parce que cette image, elle, pour moi, c'est un déclic à un moment. En 1971, on a détruit les Halles de Paris, et c'est le principe du non-événement, c'est-à-dire qu'on aurait pu éviter cette folie absolue. Mais en même temps, cette folie, elle a déclenché beaucoup de choses derrière. Et vous voyez à droite, le président de la République, Mitterrand, c'est une sorte de mise en abîme assez étonnante, parce qu'il est en train d'essayer de comprendre la Halle de la Villette tout en étant dans la Halle de la Villette. Et avec l'ouvrier, il y a eu, 10 ans après, une sorte de rattrapage qui a été quelque chose d'absolument essentiel dans la pensée sur la reconversion. C'est-à-dire, il a fallu commencer par une dette, par quelque chose, un massacre absolu, pour aller ensuite vers d'autres éléments. Cette Halle de la Villette, ça a été un grand moment pour nous. C'est le début d'une série. C'est quelque chose qui maintenant a pris sa place. D'ailleurs, nous sommes à la Villette et pas pour rien pour moi, parce que c'est un lieu absolument magique et François Barré en a été l'artisan absolu. Et cette question des Halles, on l'a prolongée ensuite et on a compris que quand on parle de l'existant, quand on parle d'espace capable, d'appropriation, de changement d'usage, il faut arriver à faire avoir une lecture de cette architecture, et l'architecture répétitive, l'architecture de l'industrie, ce n'est pas un espace au départ, c'est une musique, c'est-à-dire que ce sont des motifs, des principes de répétition, des rythmes, des déformations, et que cette musique, elle est essentielle à la vie des êtres humains. C'est pour ça que ces espaces sont toujours aussi merveilleux et euphorisants. Ensuite, petit clin d'œil au projet de l'usine Leblanc. Ça a été un grand moment. On a inventé le loft social, c'est-à-dire que c'était en 78, c'est-à-dire que vous voyez que l'esthétique était déjà pré-IKEA, si je peux dire, mais avec l'esprit du loft, avec un volume incroyable. Et par un article du Monde, on est devenu spécialiste de cette question totalement marginale, parce qu'à l'époque, autant vous dire que la table rase battait son plein et que c'était la démolition qui était la règle. C'est d'ailleurs la démolition qui est toujours la règle. Et je crois que cette logique va changer très fortement, parce qu'aujourd'hui, on a des règlements, on a des ensembles d'exigences. Il va falloir cumuler effectivement le bas carbone et le ZAN, et ça va nous amener à une révolution de l'aménagement absolument complète. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir en disant on va adapter nos méthodes d'aujourd'hui, on va devoir faire beaucoup plus que cela. En continuant sur cette question de l'usine, je pense que l'idée de vouloir opposer l'existant à l'ancien, je ne parle pas de patrimoine, hein, je parle du déjà là, au sens large, mais toutes ces valeurs, y compris les valeurs négatives. Et dans ce projet de Belfort, c'est la première fois où on a entrepris la réindustrialisation, non, la transformation de l'industrie de ce secteur. C'est une des villes qui n'a pas désindustrialisé. Et cette réindustrialisation, cette modernisation de l'industrie, elle s'est faite par adjonction de bâtiments contemporains dans un tissu de halles. C'est devenu un leitmotiv, c'est devenu une architecture, c'est devenu un esprit et c'est devenu un récit urbain. Je passe maintenant effectivement à une autre échelle, qui est cette échelle du Bas-Chantenay à Nantes. Je salue Vincent et Elise Cazenov qui sont ici, parce que c'est un travail que l'on poursuit en commun depuis de nombreuses années. Et vous voyez cette plaine industrielle qui est une plaine assez étonnante, qui est restée dans son jus, si je peux dire, tout en faisant partie du centre-ville. Et je constate a posteriori que notre génération a prétendu reconstruire la ville sur la ville, ce que nous n'avons pas fait. Nous avons remis à plat des territoires de l'industrie, que nous avons transformés en logements, dans d'autres choses. Mais 9 fois sur 10, la démolition était la règle. Démolition du parcellaire, démolition des traces, démolition des bâtiments. Il y a eu un travail assez considérable là-dessus. Alors, ce qui reste aujourd'hui, effectivement, c'est des territoires soit qui fonctionnaient bien à ce moment-là, soit des territoires qui étaient dans des endroits qui n'avaient pas une valeur de localisation assurée. À Nantes, la question est une question complexe, parce qu'il était hors de question, si je peux dire, de vouloir fabriquer un projet urbain nouveau et analogique sur un territoire de ce type. C'est un territoire résistant, et le thème qu'on avait proposé, c'est ce que j'appelle une urbanisation d'interaction, c'est-à-dire des liens et des lieux, des parcours, les cales de la Loire, évidemment, et puis ce plan de métro londonien qui explique ce que c'est qu'un urbanisme d'interaction à l'intérieur d'un territoire complexe. Le premier acte, c'est ceci, c'est le jardin merveilleux, c'est la carrière misérie. Et je trouve que ça a été une décision formidable de la métropole de commencer un projet de redéploiement d'un quartier industriel par un jardin merveilleux, par ce jardin de la carrière qu'on a réalisé, c'est Phytolab qui en est le paysagiste. Et c'est un projet qui a pris une place considérable dans l'esprit des habitants et qui est une dynamique formidable dans le développement du quartier. Le deuxième élément, c'est que nous avons 17 hectares de halles sur ce territoire, qui est une collection qui va d'objets à des ensembles et des ensembles à des tapis. Et ce territoire de halles, nous en faisons un couple patrimoine nature. Je dis patrimoine alors que ce n'est pas un patrimoine reconnu, hein. C'est un patrimoine dans mon sens à moi, c'est-à-dire au niveau de la continuité du récit. Et tout le projet que nous faisons est bâti sur cette idée d'associer la nature et ce patrimoine pour en faire un paysage nouveau. Ce paysage, il est représenté de cette façon, ce sont des previews, si je peux dire, ce ne sont pas des perspectives, mais nous avons couvert ce territoire d'un ensemble de vues anamorphiques, c'est-à-dire comment, quand on se déplace sur ces parcours, et comment on met en œuvre une dynamique d'assemblage, et comment on arrive à associer un bâti contemporain à un bâti ancien pour en faire un paysage nouveau. Donc ce sont de multiples situations qui sont exploitées et qui permettent de décider ce que l'on garde, ce que l'on ne garde pas, ce que l'on rajoute, et comment ce système fabrique à la fin une échelle qui parle aux habitants, qui est une échelle dans lesquels les gens puissent se reconnaître. Donc c'est une multiple logique de paysages emboîtés les uns dans les autres. Ces paysages sont insolites. Ils sont le fruit de l'activité humaine, avec des formes absolument incroyables. Et autour de cette idée, on compose cette anamorphose générale qui ensuite devient un ensemble de projets. Ce projet, je n'en montre qu'un. C'est un des prototypes qui est mis en place actuellement, qui est terminé maintenant. C'est un projet qui est fait pour une entreprise qui s'appelle Airsys. C'est une entreprise qui construit des cerfs-volants capables de tracter des bateaux, des porte-conteneurs et des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une véritable logique de travail avec le climat et de travail avec le bas carbone. Et symboliquement, cette entreprise voulait être à cet endroit, dans quelque chose qui est la filière nautique que défend la métropole. Donc cet ensemble, il est lui-même évocateur et il s'inscrit dans une évocation générale. Je n'ai pas le temps de vous le détailler, mais vous voyez le type d'architecture qui sont induites par l'imaginaire du monde industriel. Ensuite, je voudrais faire un détour rapide sur la question de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire de la révolution, j'appelle environnementale ou numérique, et avec deux facteurs qui sont des facteurs qui se conjuguent et qui sont parfois contradictoires. La géographie est revenue au cœur de la conception et l'urbanisme des modes de vie prend le pas sur l'urbanisme des tracés. Une image sur Montpellier, sur le SCOT, sur l'inversion du regard, ce mouvement qu'on avait lancé avec les premières écocités dans une vingtaine d'années. Et puis le devenir de cette route de la mer, qui est une concession de 300 hectares, 288 hectares, construite autour d'une terre agricole. Cette terre agricole elle-même traversée par cette route de la mer absolument merveilleuse, qui est une pinède linéaire, et dans laquelle s'est installée la route du commerce. Cette route du commerce, c'est une occupation de première intention, et toute la question de sa mutation a d'abord été basée sur le fait qu'un système continu allait devenir un système polarisé. C'est l'effet tramway qui est une merveille absolue à Montpellier, qui nous a permis de définir autour de ces polarités le rapport entre une ville intense et une ville nature. Ce système, nous l'avons développé autour du ZAN intégral, c'est-à-dire que c'est un projet d'1 million de mètres carrés qui est fait en pur ZAN, si je peux dire, avec évidemment un petit particularisme qui est toujours le même, c'est que les turpitudes d'hier sont un peu les vertus de demain, et que les commerçants, dans ces routes du commerce, ont inventé l'artificialisation préventive il y a une trentaine d'années, et qu'aujourd'hui, on peut travailler avec. Tout ensuite est question de méthode et de travail avec cette question de ce qu'on a appelé un troisième réseau, c'est-à-dire un réseau piéton-vélo-nature qui se superpose au réseau viaire et au réseau tramway. Alors, tout ça est assez elliptique, mais ça vous montre une façon de travailler cette route du commerce qui a évolué au fil du temps et qui va devenir un objectif ZAN absolu pour 1 million de mètres carrés nouveaux. Et puis, un autre sujet que je trouve absolument passionnant, c'est le plateau de Brabois, sur 600 hectares à Nancy, dans lequel on voit ici deux villes, c'est-à-dire la ville qu'on aime, la ville historique que l'on voit depuis le parc de Brabois, et puis en dessous, la ville des universités, du CHU, etc., entièrement dominée par la voiture. Et autour d'une nature patrimoniale, on a travailler une sectorisation de ces différents campus qui sont installés sur ce site, avec l'idée de refaire une ville à la fois universitaire et généraliste. Et cette ville, elle a pris la forme d'un ensemble de constellations, d'une constellation dans lequel des points d'urbanité s'installent à l'intérieur d'autres systèmes urbains, pour créer une continuité autour des nouveaux transports en commun. Cette logique de stratification, c'est une logique qui est maintenant en cours de mise en œuvre. Chaque projet fait l'objet d'un travail sur un remembrement foncier et sur les délaissés de toutes sortes, pour arriver à fabriquer des projets dans les projets à une échelle qui est une échelle significative. Et je termine sur cette image dont vous parliez tout à l'heure, sur cette question de la ZIC. Pour moi, c'est l'antithèse de la zone, c'est le projet territorial. Donc c'est un projet qui est vraiment fait autour de liens et de lieux. Mais j'ai découvert à la première réunion des comités de polarité, comme on les avait appelés, que ces polarités ont pris le nom de zones d'intervention commune, c'est-à-dire de ZIC, et que ces zones d'intervention commune sont des zones qui tuent l'idée du zonage, ce qui me va très bien comme clé d'entrée dans un projet de ce genre. Voilà, donc très rapidement et de façon elliptique, je vous montre des démarches qui sont tenues par des métropoles avec lesquelles on travaille, et qui sont des démarches qui fabriquent une sorte de poésie de l'existant, quel qu'il soit, et qui fabriquent une ville stratifiée qui va succéder à la ville fonctionnaliste que l'on vit depuis l'après-guerre. Je crois qu'après la guerre, l'espace a changé plus vite que la société. Aujourd'hui, c'est la société qui évolue plus vite que l'espace, et c'est une intrigue qu'on n'a pas fini d'élucider, mais qui va changer énormément de choses dans la pratique urbaine.
Merci beaucoup. Vous avez presque réussi à tenir le défi, vous n'avez que multiplié que par deux votre temps. Donc c'est très très bien. On va enchaîner sans attendre avec Sébastien Pateron pour Montpellier, qui va évoquer l'opération Grand Cœur lancée en 2003 par Georges Frêche, qui va nous rappeler le pourquoi du comment est venue cette opération, parce que ça me semble très intéressant de le rappeler, et qui nous fera un bilan de là où on en est 17 années plus tard, si je compte bien.
Voilà, je vais vous évoquer donc la ville de Montpellier et sa métropole. C'est une ville qui fait 300 000 habitants, c'est la 7e ville de France, une forte démographie, 500 000 habitants sur la métropole, et donc on a une attractivité importante comme d'autres métropoles sur notre territoire. La vraie question, c'était comment habiter et travailler dans un cœur historique au XXe siècle.
Sébastien, essaye de parler dans le...
Oui, pardon. Oui. Et la vraie idée, c'était effectivement comment travailler et vivre dans le secteur historique à nos jours. Et donc, on a effectivement, après un travail, donc le quartier centre, c'est 72 000 habitants, c'est 800 hectares, donc c'est l'Écusson. L'Écusson est le centre historique que l'on dénomme plutôt dans le sud, sur des villes du sud, donc l'Écusson, mais aussi l'ensemble de ces faubourgs qui représentent effectivement 72 000 habitants et 800 hectares. Donc voilà la proportion. La genèse de l'opération, c'est effectivement Georges Frêche qui, en 2002, après avoir, lui, défini la stratégie urbaine que l'on étend aujourd'hui encore sur Montpellier et que Bernard Reichen a évoqué, à savoir le développement de Montpellier vers la mer, en 2002, il a pris une claque aux législatives et il a un petit peu regardé les résultats et effectivement, il est apparu qu'il n'avait pas fait les bons résultats en centre-ville. Et il a demandé à ses services et à son DGS de travailler, de créer assez rapidement une opération qui s'est appelée Montpellier Grand Cœur. Et donc effectivement, et c'est là qu'effectivement on a travaillé avec les services de la ville, mais aussi la CERM, puisque c'était aussi un enjeu de travailler, c'était un peu nouveau de pouvoir travailler dans une opération dédiée qui s'appelle la Mission Grand Cœur, donc une opération qui regroupe des services de la ville de Montpellier, mais aussi des équipes dédiées de la CERM. Et on a monté un projet pour reprendre les objectifs d'une opération qui reprend le défi qu'on a aujourd'hui qu'on évoque aujourd'hui dans le séminaire, à savoir de conserver, renforcer l'attractivité en conservant l'existant historique, contemporain et patrimonial. Donc comment le faire sur une production de logements de qualité, la dynamisation du commerce et la requalification de certains équipements et espaces publics. C'était vraiment l'enjeu qui a été mis en place en 2002 par l'exécutif. Donc, les constats de l'époque, on avait une grande attractivité, hein, c'était pas une notion, mais par contre, une croissance effectivement importante, pas de problème de décroissance, mais en tous les cas, un marché immobilier très tendu, tout se vendait, tout se louait, et c'est encore vrai aujourd'hui, à des prix très très importants. À l'époque, c'était déjà du 15 euros du mètre carré, hein, des petites surfaces, des grandes surfaces, une obsolescence du bâti complètement morcelée. Et donc, du coup, il a fallu effectivement être un peu offensif quand on a pris la place. On a mis en place des outils prérogatives publiques et on voit, sans les nommer, tous les outils opérationnels qu'on a pu mettre sur des opérations où on a effectivement concentré la stratégie immobilière sur ces opérations. On a mis des outils de prérogatives publiques tels des déclarations d'utilité publique de travaux, des périmètres d'ORI aujourd'hui, mais aussi, bien entendu, des outils de protection du patrimoine, révision du secteur sauvegardé, et aujourd'hui, ZPPUP d'hier et AVAB d'aujourd'hui. Donc on a mis une panoplie de opérationnels qui nous a permis effectivement de mettre en place une stratégie avec plusieurs étapes. Une première étape qui a été pour commencer la production de logements. Ça nous a semblé effectivement la première étape assez cohérente à mettre en place, donc un travail sur l'existant avec ces outils de prérogatives où on a préempté des biens et on a acheté dans le cadre de la SERM et de la SA3M, la SERM étant une SEM et la SA3M une SPL, de façon une prospection active en préemption et en négociation amiable, différents biens pendant plusieurs années pour pouvoir interrompre le phénomène de marchand de sommeil que l'on pouvait retrouver sur... Donc pas question de démolir, mais de la restauration. Donc on s'était forcé à retravailler sur l'existant dès le début. Et donc vous avez des exemples très rapidement. Nous avons réussi dans les 20 ans à faire 2147 logements réhabilités depuis 2003. Ça paraît peu en termes de volume quand on fait une ZAC de 1500 logements en 10 ans, mais c'est important et on a réussi à marquer le territoire sur ce genre d'opération. Voilà. Je déroule. Oui. Deuxième étape, et on a des exemples où effectivement, là où on peut acheter en tant que nous aménageurs en recyclage, où on achète, on reloge et on réhabilite, puis on était aussi à un rôle d'aménageur et d'accompagnement auprès des copropriétés pour qu'ils puissent réhabiliter. Et on voit un exemple où on a démoli juste, on a fait un curetage sur une partie du cœur d'îlot qui nous a permis d'interrompre le mal logement qui était à l'intérieur de cet îlot. Donc on a eu une intervention lourde, financée à la fois par l'ANRU, dans le cadre du PRU première version sur les centres-villes, mais aussi par l'ANA, pour les spécialistes en tirerie, où on a des financements. Donc on a réussi à avoir ce double financement qui nous a permis de réhabiliter cet îlot, qui est aujourd'hui un îlot complètement refait, y compris avec les espaces publics, on verra. La vraie question est bien entendu, quand on fait ce genre d'opération, la gentrification. On se pose la question toujours, qu'est-ce qu'on fait des occupants? Aujourd'hui, on a 57% des personnes qui ont été relogées sont restées sur centre-ville. Et le reste a été relogé à l'équilibre sur les quartiers, à la fois... à l'ouest de la ville, sur le quartier de la Mosson, qui est effectivement le quartier le plus sensible aujourd'hui, mais aussi sur le quartier plutôt Primes, qui s'appelle Port-Marienne. Donc on a un équilibre sur nos relogements. Donc on a bien veillé à ça, y compris la politique publique a pu le faire.
Les leviers, rapidement.
Les leviers, c'est effectivement le logement, c'est ce que j'ai pu émettre. Et puis la dynamisation du commerce, c'est la deuxième étape, après avec l'espace public, c'est effectivement de pouvoir travailler en parallèle sur un travail de dynamisation du commerce à deux échelles, une échelle d'attractivité métropolitaine, d'essayer d'agrandir l'armature commerciale que l'on pouvait connaître en essayant d'agrandir sur des grands axes qui étaient notamment le boulevard du Jeu de Paume qui connaissent le centre-ville, et effectivement de pouvoir travailler sur cette échelle métropolitaine, mais aussi sur une échelle de commerce de proximité, travaillant sur des évictions, des acquisitions, des évictions pour redynamiser à l'échelle d'une rue un commerce, en lien avec ce que l'on avait fait sur le logement dans un deuxième temps. Voilà quelques exemples de 97 sessions ont été réalisées sur cette opération. Je continue ?
Oui, tu as encore 30 secondes.
Ouais. L'espace public, et puis l'espace public est un élément important en lien avec le logement, le commerce, mais aussi la création d'espaces publics de qualité. Et donc toujours, même logique, même cohérence, on travaille sur le logement, le commerce et l'espace public avec une cohérence opérationnelle qui permet de pouvoir créer de l'espace public de qualité pour pouvoir accueillir des commerces à la suite. Et aujourd'hui, on s'attaque à la place, place de la Comédie, la place à l'échelle du centre de la métropole.
Écoute, tu es gentil de me poser la question. je vais trouver peut-être désagréable. on reviendra dessus dans l'échange. Je te remercie beaucoup pour l'effort. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire et que c'est toujours assez compliqué. Je vais passer la parole à Guillaume Ecquet. De la société Villogia, c'est joli aussi Villogia, mais c'est Villogia qui va nous présenter un projet développé sur la friche Mazurel. Alors peut-être faut dire que Villogia c'est un bailleur social et que Guillaume, tu diriges le département aménagement de ce bailleur social national, hein, qui est un très grand bailleur. Et là on va descendre à l'échelle du recyclage d'une friche de 4 hectares. Avec des sujets de dédensification, de végétalisation, de conditions d'acceptabilité du projet pour les riverains, la question de la conservation de bâtiments existants, vécue plutôt comme une contrainte au départ, et puis peut-être aujourd'hui se révélant une vraie opportunité dans le développement du projet. Voilà, je te passe la parole.
Très bien, merci. Bah, je vais essayer de vous dire ça dans un temps très court. Donc, je vous emmène un peu plus au nord, on quitte Montpellier et on arrive à Tourcoing. Donc Tourcoing qui est la deuxième ville de la métropole lilloise, une ville qui est marquée par son passé industriel, avec la présence de nombreuses friches typiques de l'industrie du Nord, avec ce qu'on appelait les châteaux de l'industrie, qui ont une certaine qualité architecturale, avec beaucoup d'ouvrages en briques. Ces friches industrielles, il y a encore assez peu de temps, n'intéressaient pas grand monde, parce que difficile à transformer. Et la raréfaction du foncier fait que sur cette couronne nord-est, on sent un effet de tache d'huile, j'ai envie de dire, avec peu à peu des projets qui commencent à apparaître, se créer et qui permettent d'en enclencher d'autres. Donc la friche que Villogia a pu acquérir fait 4 hectares. Elle est située elle a l'avantage d'être dans le tissu urbain, donc à proximité immédiate de l'ensemble des services, à proximité immédiate aussi d'une voie verte qu'on voit sur la partie nord-ouest, une ancienne voie ferrée qui est transformée en voie verte, et puis à mi-chemin entre une zone d'activité, des quartiers d'habitat résidentiel plus au sud-ouest et plus populaire au nord-est. Donc, cette friche, comme souvent les friches industrielles, est marquée par une, un amoncellement de construction avec une forte densité. On a, sur 4 hectares, on a 70% d'emprise bâtie, quasiment le double en construction. Et par contre, la surface des espaces verts est résiduelle, c'est 5% d'enfrichement. Cette friche, c'est quand même 4 hectares. Il faut imaginer 4 hectares à l'échelle d'un quartier. Ça crée une véritable enclave. On est sur une situation qui verrouille le quartier. Donc si certains bâtiments ont une qualité architecturale en tant que telle, elle apporte aussi un effet de déprise à l'échelle du quartier, parce qu'il s'y passe rien. Elle est même squattée. Enfin, elle apporte pas une plus-value au quartier. Donc une fois devenu propriétaire, on a discuté avec les collectivités et l'ABF sur la transformation. L'ABF avait une position qui était plutôt radicale sur le fait de conserver une grosse partie, voire la totalité des bâtiments. Sauf que notre modèle économique de transformation, cette friche, on l'achète pour développer une opération de mixité, mais à dominante logement, avec du locatif social, l'accession abordable, une partie aussi d'accession libre. Mais le modèle économique ne permet pas de transformer tous les bâtiments et trouver une destination à tous les bâtiments. Donc dans les discussions, on a convenu de garder les bâtiments que vous voyez en rose, qui sont les bâtiments les plus intéressants d'un point de vue architectural, notamment avec le bâtiment des Grands Plateaux, qui est un bâtiment art déco, et qui permettent aussi de conserver le long de la rue de Paris au sud, la façade urbaine de la friche. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver, mettre en scène la plus belle partie du patrimoine, et puis libérer des terrains derrière pour développer notre projet d'aménagement. Donc ce projet d'aménagement, les discussions avec les collectivités, avec notre urbaniste, c'était de se dire comment, de ce site qui était en déprise, lui redonner de l'attractivité. Comment faire que des gens aient envie d'aller habiter à cet endroit-là, et comment faire aussi que cet aménagement ne profite pas simplement aux habitants du futur quartier, mais apporte aussi à l'échelle du quartier plus large, à l'échelle du quartier vécu. Donc on a fondé notre postulat d'aménagement sur plusieurs axes. D'abord, c'était d'ouvrir le quartier. Clairement, l'idée, c'était d'ouvrir cette friche, la rendre accessible, recréer du domaine public. Donc on voit qu'on irrigue le quartier largement avec des nouvelles voiries qui sont plutôt des voies piétonnes. On recrée des perspectives. Donc on recrée de l'espace public là où on était sur une situation complètement clavée. La deuxième approche, ça a été aussi de se dire, comme je vous le disais tout à l'heure, ce site était dense et minéral, c'était de recréer, renaturer. Donc de 5% de friche végétale, le projet vise à créer 30% de renaturation. Donc recréer des espaces verts à la fois sur le domaine public et puis à la fois dans les ensembles privés. Enfin, comme axe, l'idée, c'était aussi de dédensifier. Tourcoing, c'est une ville dense. La friche urbaine telle qu'elle était, c'était un amoncellement de bâtiments industriels. Et le postulat qu'on a pris aussi, c'est de diviser par deux les emprises au sol, justement pour relaisser de la place à la renaturation. Dans le projet aussi, on l'a créé comme... On a voulu apporter de la mixité fonctionnelle, et on voit autour des petits emplacements qui sont marqués en jaune sur le plan, l'idée de recréer des petites centralités de quartier et de réapporter aussi du commerce de proximité qui va profiter au quartier nouvellement créé, mais aussi au quartier plus largement, ce qui participe aussi de l'attractivité plus globale du projet. Donc le projet, comme je le disais, un projet à dominante logement, mais avec l'idée d'une certaine diversité. Donc on veut créer une diversité de modes d'habiter, donc à travers des bâtiments de soit plus grande hauteur qui dégagent des vues, soit des petits bâtiments qui encadrent la place, et puis aussi de l'individuel groupé, qui est une typologie qui est recherchée sur la métropole lilloise, du coup avec du jardin. Les bâtiments, on le voit, on conserve donc nos trois bâtiments qui ont un intérêt patrimonial, mais ces bâtiments, à ce moment-là de définition du projet, on n'avait pas encore de destination qui était réellement envisagée. Et du coup, notre modèle économique de l'aménagement, c'était de se dire, on le fait sur le projet neuf. Il faut laisser, pour ouvrir le champ des possibles sur la reconversion de ces bâtiments existants, il faut réussir à ne pas leur donner de valeur foncière pour travailler une nouvelle destination, et une nouvelle destination avec le souci qu'elle apporte au quartier. Donc, je vais passer ça. L'idée, ces bâtiments, on les a proposés à différents brokers, on a essayé de les proposer en grain regret, ça n'intéressait personne, il n'y avait pas de modèle économique, il n'y avait pas de destination, donc on s'inspirait de l'air du temps et on a dit on va lancer un appel à idées. Un appel à idées où on recherchait des équipes avec des concepteurs, mais aussi des porteurs de projets, des maîtres d'ouvrage, des exploitants, des investisseurs. Donc, on a eu une bonne surprise parce qu'on a eu 5 réponses bien construites, 5 réponses intelligentes qui nous ont permis de travailler ensuite une forme de dialogue compétitif avec ces parties prenantes, avec ces opérateurs, en associant la ville. Et on est encore, d'ailleurs, dans ce process de choix d'un opérateur. On a lancé cette consultation à l'été 2021 et on a l'objectif d'aboutir à l'été 2022 pour trouver l'opérateur qui pourra développer ces bâtiments, leur trouver une nouvelle destination. Donc là, en inventaire à la Prévert de ce qui nous est proposé, sur le bâtiment des Grands Plateaux, on a du tertiaire, donc des programmations plus classiques, mais aussi des halles commerçantes, des métiers de bouche, des programmations autour du loisir, sport, indoor. Une réflexion aussi sur des silos, du stationnement silo, qui nous permettrait de soulager la réalisation de stationnement dans le projet neuf. Sur le bâtiment des anciens bureaux, qui est le long de la voie verte, on a des programmations qui nous sont proposées en termes de restaurants, donc c'est intéressant parce que ça recrée des nouveaux lieux de destination. Et puis sur le bâtiment des Halles Mazurelles, on a des propositions autour d'ateliers productifs, autour d'artisanat. Donc, pour conclure, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce process et dans notre métier d'aménageur, c'est que au départ, il faut accepter de pas tout maîtriser, de pas avoir réussi à identifier une destination pour tout, mais d'avancer en marchant et avec une certaine idée que le projet va générer le projet, que l'attractivité va générer l'attractivité. Et on voit lorsque je discutais avec les opérateurs qui ont répondu à cette consultation, le fait d'avancer sur un projet neuf, d'avancer sur un nouveau projet attractif qui reverdit, qui recrée un nouveau maillage, ça recrée un écrin pour la transformation de ces bâtiments. Et de la même façon, je termine, la transformation de ces bâtiments, elle recrée une nouvelle attractivité pour notre projet neuf. Elle apporte des nouvelles fonctions, des nouvelles destinations. Elle recrée des nouveaux lieux de destination qui nous permet, à l'échelle d'un projet qui n'est pas énorme, c'est un projet de 4 hectares, d'avoir à la fois du logement, mais aussi de la mixité fonctionnelle avec du commerce et des nouveaux lieux de destination. Et j'en reste là.
Bravo. La dernière intervention d'Arnaud Baudel. Vous êtes directeur général d'une société atypique, vous allez la présenter, très liée à la production de logements dans des bâtiments qui font patrimoine, pour le coup. Vous nous avez fait part, lors des échanges de préparation, de l'importance d'une évaluation en amont de la capacité des bâtiments à se transformer ou non en logement. Vous avez dit également l'importance des dynamiques locales pour conforter vos choix d'investisseurs, comme c'est le cas par exemple notamment à Arras et à Douai ou encore à, à Marquette dans la métropole lilloise une nouvelle fois, ou encore à Rennes. Je vous passe la parole, vous avez 10 minutes.
10 au lieu de 15. Je vais essayer. Réglementaire, d'accord. Merci de m'accueillir. C'est pas parce que je passe après Guillaume, mais on va beaucoup rester dans les Hauts-de-France, parce qu'on y a quelques-unes de nos plus belles réalisations et quelques-unes des réalisations qui vont alimenter la réflexion qu'on essaie d'avoir aujourd'hui. Je vais le faire en deux temps, donc d'abord expliquer notre intervention, et puis ensuite beaucoup parler du rôle de la collectivité et de l'aménageur. Très vite sur Histoire et Patrimoine, simplement expliquer qu'on est un opérateur privé, donc on se place du côté promoteur, même si on dit souvent qu'on n'est pas promoteur parce qu'on a une approche sensiblement différente. On intervient exclusivement sur des sujets en réhabilitation et à destination de logements. Alors logement est assimilé, on s'est proposé de la résidence service, étudiante, senior, etc. Mais voilà, on est un outil logement et on intervient par contre sur un spectre assez large en amont, parce que la réhabilitation ça a différentes dimensions. La reconversion du patrimoine, le recyclage urbain, les centres-villes anciens, les secteurs sauvegardés, les PPAUP, le patrimoine 20e, la résorption de l'habitat insalubre, etc., etc. On intervient sur tout ce panel-là, mais pour respecter les 10 minutes et puis surtout alimenter la réflexion actuelle, je vais devoir réduire le scope à uniquement donc ce qu'on appelle nous la reconversion du patrimoine. Donc je ne vais pas aborder les sujets de centres-villes anciens, pourtant... qui a été évoqué à Montpellier nous parle beaucoup, le maire de Grasset, là, on regarde aussi beaucoup ces sujets-là. Je vais devoir restreindre à ce qu'on appelle, nous, les grands ensembles. On a internalisé tous les métiers, non pas pour dire qu'on sait tout faire, mais surtout pour expliquer que l'approche qu'on a est très différente et il faut avoir ce savoir-faire, notamment en termes de vente, des logements qui sont assez atypiques, particuliers, en termes de chiffrage des travaux et en termes d'administration, pour arriver à proposer des opérations... privé de reconversion de ce type de patrimoine. J'avance. Donc du coup, sur notre intervention, je vais prendre deux exemples assez particuliers. On se pose pas mal de questions, nous, en tant qu'opérateur, quand on doit intervenir. La première, c'est l'essentiel, c'est est-ce que ce bâtiment-là se prête à du logement. Le premier exemple, c'est à Arras. Donc à Arras, c'est la caserne de Schramm, donc du patrimoine démilitarisé que la collectivité a récupéré, la communauté urbaine d'Arras spécifiquement, qui doit le reconvertir, qui veut y amener du logement, qui vient nous chercher. Donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça s'y prête. Ces bâtiments sont protégés à différents titres. Ici, ils étaient inscrits au titre des monuments historiques. Est-ce que ça s'y prête? Ça veut dire, est-ce qu'en respectant les dispositions et les qualités intrinsèques du bâtiment, on sait y mettre du logement? Donc en respectant la lecture de la façade, les hauteurs sous plancher, les hauteurs sous plafond, pardon, les distributions intérieures, les éléments patrimoniaux, là, il y en avait... plus trop à l'intérieur, mais souvent il y en a encore. Est-ce qu'on sait, en respectant tout ça, ou en les modifiant à la marge, aménager du logement? Alors ici, la chance, c'est que c'est du casernement. Le casernement, par définition, c'est de l'hébergement, donc on devrait y arriver en ayant un œil qu'il faut. Mais il y avait quand même des petites difficultés, on le voit un petit peu là, mais entre le bâtiment des archers à l'arrière et les deux grosses barres, Jardin d'Artois et Saint-Aubert, les épaisseurs sont très différentes. Donc on a beaucoup réfléchi avec la collectivité sur ce qu'on allait y mettre. La première barre Saint-Aubert, ça a été du logement classique, Jardin d'Artois, une résidence senior, et les archers qui étaient plus fins, on a essayé d'amener ça sur plutôt de l'étudiant et du jeune travailleur avec des petites typologies. Donc la première question, c'était est-ce que ça s'y prête? Ça, c'était le avant. A priori, on a réussi. Ça a été livré l'année dernière. Enfin, on a fait les bâtiments en tranches, donc je ne vais pas revenir sur toutes les dates, mais les derniers bâtiments ont été livrés l'année dernière. Donc on en est assez fiers et ça marche plutôt très bien. Je vais faire la transition sur la deuxième question qu'on se pose, c'est l'attractivité. Donc ici, c'était assez évident. Le site est en plein centre-ville. Donc l'attractivité est évidente, on se demande si les gens voudront vivre, venir, habiter dans ces bâtiments-là. Ici, c'est assez simple. Sur le deuxième exemple, je vous emmène à Marquette-les-Lignes. Ici. Là, c'était un peu moins évident, parce que quand on arrive, ça ressemble à ça. On se dit, est-ce que vraiment on va pouvoir faire venir des gens qui vont habiter dans un bâtiment comme ça? Donc au début, non. En 2010, on se dit plutôt non. Puis, chemin faisant avec la ville, qui a été très, très, très motrice, et derrière la métropole européenne de Lille, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté d'aménagement à la suite du Grand Rodia, etc. Il faut créer une attractivité ici. Donc, il y a une OAP a été créée, différents mécanismes ont été créés, et on s'est fait une conviction en même temps, c'est-à-dire, bah, si, en fait, on peut trouver de l'attractivité sur ce site-là. Et ça, c'est le après. C'est une photo assez récente, alors, sur la partie qui n'a pas été encore aménagée, parce que nous avons été le premier acteur à se lancer dans ce défi-là. Mais on l'a fait vraiment avec des bases qu'on estimait assez solides. Donc l'OAP existait, les volontés étaient communes. On s'est dit, c'est bon, ça arrivera. On va être les premiers, mais on arrivera à justifier aux futurs habitants.
Vous pouvez peut-être...
Orientation d'aménagement et de programmation. Donc il y avait, une zone dans laquelle nous, on a su se dire, c'est bon, l'aménagement sera là, les parcelles à côté vont se faire, et pour la boucler la boucle, on a livré cette opération il y a deux semaines, alors que la partie ancienne, la partie neuve a été construite par un autre opérateur. Mais tous les terrains aux alentours sont en train d'être construits. Donc ça a fonctionné. La troisième question qu'on se pose, c'est qui sont liées assez directement aux deux premières, c'est vraiment la commercialisation. On crée du logement, donc on les vend. Est-ce qu'on saura trouver des acquéreurs pour ce type de logement? C'est une question souvent assez complexe. Ça ne dépend pas que de l'attractivité et de la capacité des bâtiments à accueillir du logement, ça dépend aussi de quel type de logement on pourra aménager. C'est toujours de l'atypique, mais l'atypique, alors on a cette capacité à savoir concevoir, penser et vendre des logements atypiques. On n'est jamais sur des programmations classiques avec un T2, un T3 prédéfini et un programme établi. Néanmoins, si le T1 commence à faire 70 mètres carrés, c'est que ça ne se prête pas à du logement et qu'on aura quand même du mal à le commercialiser. Donc c'est la troisième question. Et sur de l'hébergement, c'était assez simple, mais sur un bâtiment ici, on est sur de la reconversion de patrimoine industriel, parce que ce sont des anciens, pardon, je suis passé un peu vite, anciens grands moulins de Paris, il y en a quelques-uns en France, mais celui-là est assez monumental. On a réussi, avec l'architecte qui s'appelait, c'est l'agence MAS, à proposer des logements qu'on a su commercialiser en intégralité. Et donc la dernière question qu'on se pose, qui est assez sensible, c'est l'économie du projet. Alors j'ai bien précisé que j'allais réduire le spectre, parce qu'il existe, selon le type de bâtiment, beaucoup de montages, de leviers fiscaux, d'aides, etc. Sur ce type de patrimoine, bien souvent, il est nécessaire de faire appel à ce qu'on appelle la loi monument historique, pour en partie seulement couvrir une partie des coûts de réhabilitation, parce que, alors, en moyenne, c'est un chiffre, en moyenne, nos coûts de travaux sur ce type de projet, c'est de l'ordre de 1 000 à 1 500 euros du mètre carré, supérieur au coût de travaux du neuf qui aurait été nécessaire pour démolir et reconstruire. C'est énorme, ça veut dire que, pour en avoir en tête un budget de travaux consolidé avec les honoraires, la TVA, etc., on est plus de l'ordre de 3 500, 3 600 euros du mètre carré. On est bien souvent supérieur au prix de marché des villes sur lesquelles on intervient. S'il n'existait pas des lois spécifiques, on ne pourrait pas, nous, opérateurs privés, intervenir sur ce type de bâtiment. Normalement, je suis à peu près à la moitié. J'ai terminé. Bon. Oui, la question
c'est important de parler de Douai.
Oui, de Douai, parce que notre intervention faite, en fait, on ne sait jamais vraiment les faire tout seul. Sur une opération immobilière, déjà, enfin, le rôle de la collectivité est essentiel. Mais sur ce type d'opération, il est absolument nécessaire et indispensable. Donc, je prends deux exemples, c'est Douai. Douai, ils avaient une caserne, ils l'ont toujours, hein, elle ressemble à ça. Donc une réflexion similaire à celle d'Arras que j'ai montrée juste avant, avec la ville qui veut qu'on intervienne parce qu'elle a vu ce qu'on est en train de faire sur Arras. Et là, vraiment, pour parler un peu crûment, la ville de Douai fait peur. Si je reprends les quelques critères qu'on a vus avant, on se dit que Douai, c'est une ville un petit peu sinistrée, surtout en termes de logement. On discute avec le maire pendant des années, et on se rend compte d'un maire, M. Chéreau, extrêmement dynamique, qui a réussi à mettre en place tous les leviers qui pouvaient exister, donc déjà avant Action Logement, hein, pour arriver à faire revivre sa ville. Ça commence par les interventions publiques sur les voiries, sur les commerces, la place de commerce. Et là, on voit le solde de commerce qui s'inverse, on voit la courbe du chômage qui change aussi. Et on se dit au bout de 3 ans qu'il est enfin temps. Il est enfin temps d'intervenir sur ce bâtiment, qu'on y arrivera. Je reviens sur le critère 3, si on a suivi sur le commercial, on arrivera à commercialiser, parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer et de rater. Enfin, on le voit des fois, hein, c'est des patrimoines qui ne bougent plus pendant des années. Donc on se lance, et là, vraiment sans la volonté forte de la collectivité de faire ce bâtiment, on n'aurait jamais pu. Pour la petite histoire, c'était un des sites identifiés dans la ville, et on a créé un cercle extrêmement vertueux, parce qu'on ne pouvait pas intervenir sans cette volonté globale de la ville. La ville avait besoin qu'on fasse ce bâtiment pour alimenter sa réflexion. Je pense qu'on est vraiment dans la définition même d'un cercle vertueux. C'est en cours de travaux, donc on a réussi. On avait 123 logements sur la barre de gauche, 113 sur la barre de droite, logements privés, classiques et résidences seniors à droite. Tout a été commercialisé en 2 ans, on est en chantier. Donc c'est un pari qui est d'ores et déjà réussi. Là c'est à Arras, je vais accélérer vite parce que je vais prendre trop de temps, mais c'était différent. Là la ville a récupéré ce site-là, ce site majeur inscrit, classé monument historique. Pardon ?
Je vous avais accordé 12.
C'est vrai. Bon. La ville devait le reconvertir, elle récupère ça en 2010. Elle a une programmation extrêmement complexe et elle dit que ça commencera par le logement. Donc on prend les bâtiments d'hébergement, on commence par le logement, on insuffle une dynamique avec les charges foncières. Elle commence à aménager son aménagement public et on réussit. J'ai fait extrêmement court. Et je conclue sur le rôle de l'aménageur quand même, parce que... Je ne peux pas revenir en arrière. Bon, c'est pas... On est à Noisiel sur la chocolaterie. Et là, j'ai beaucoup parlé de la collectivité, mais le rôle de l'aménageur, désolé, j'aurais qu'une slide, mais j'ai dépassé mon temps. J'aurais d'autres choses à dire, mais le rôle de l'aménageur est bien souvent indispensable parce que ici, c'est caricatural. La Nestlé propriétaire, Nestlé souhaite vendre, on le sait, on repère des bâtiments qui nous intéressent très très fortement, on y va, on visite, on discute, on se rend compte très vite que le site est bien trop gros pour nous, opérateurs logements privés. Il y a d'autres enjeux, notamment beaucoup d'enjeux d'aménagement. Une programmation diverse, donc c'est pas uniquement notre métier, je pense qu'il y a 15 métiers à réunir. Donc on attend gentiment de savoir qui va gagner, on s'aperçoit que c'est Link City, on les démarche un petit peu, et on se met d'accord. Donc nous on va intervenir là-dedans sur les 4 bâtiments qui se prêtent à du logement et qui sont maintenant inscrits au titre des monuments historiques, sur un site comme ça, sans l'aménageur qui fait cette connexion bien souvent indispensable entre la collectivité et nous, opérateurs privés, on ne peut absolument rien faire.
Merci beaucoup. Cinq minutes de retard, c'est quand même un exploit. Merci beaucoup d'avoir tenu le délai. Faire avec la poésie de l'existant, le patrimoine pour continuer l'histoire, l'échelle des territoires et celle des projets, la société qui évolue plus vite que le territoire. Beaucoup de temps dans les projets de centre-ville sur l'habitat ancien pour produire des quantités modestes. Sébastien Patéron aurait pu dire aussi que ça mobilise beaucoup d'ingénierie et d'argent public. Faire la ville avec les habitants et à côté des habitants pour la rendre supportable, parce que c'est une chose importante, c'est que ces interventions sont dans des territoires qui sont habités et vivants, une densité acceptable, quel est le bénéfice pour les riverains, les conditions de réussite économique et le lien très fort avec les élus dans le développement des projets, de projets dont la maturation est longue, et le lien aussi très, très fort et très important entre promoteurs et aménageurs. Voilà quelques idées que je retiens de manière très, très, très brève et sans vouloir faire une synthèse en 2 minutes. La parole est à la salle, je pense, sur un jeu de questions-réponses. Par contre, je ne vois rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a un quart d'heure, je pense. Silence.
J'avais une question pour Histoire et Patrimoine, parce que c'est une assez belle démonstration que vous avez présentée, et sur les conditions du modèle économique, puisque vous avez évoqué les surcoûts, mais aussi vous avez évoqué le levier fiscal comme un élément stratégique pour la réussite de ces projets. Je voulais voir comment vous arriviez à travailler avec la DGFiP et avec le ministère de la Culture pour anticiper ces questions, et comment les collectivités vous accompagner dans cette stratégie pour activer ces leviers, y compris sur les questions, vous l'avez évoqué, d'hébergement, parce qu'il y a certaines fonctions antérieures qui n'étaient pas d'hébergement, et donc dans certains cas, ce n'est pas toujours facile à justifier.
Arnaud ? Oui, c'est bon, ça marche. Il y a plusieurs questions
plusieurs questions en une. Je vais essayer de répondre à toutes, mais surtout, n'hésitez pas si j'ai pas été clair. On travaille beaucoup plus avec le ministère de la Culture que la DGFiP. On travaille avec l'architecte des bâtiments de France et la direction régionale des affaires culturelles sur 99,9% de nos opérations, donc on travaille beaucoup plus avec eux. La loi monument historique, c'est le sens de la question, est un élément alors pas tout le temps indispensable, il est indispensable sur certains types d'opérations, il ne l'est pas tout le temps. Certains bâtiments sont déjà inscrits. Quand ils ne le sont pas, j'ai envie de dire qu'il y a de toute façon, quand un bâtiment est conservé, c'est qu'il y a toujours une volonté collective de le conserver, qu'il soit inscrit, protégé à l'inventaire, un petit peu annexe, ou simplement identifié comme bâtiment remarquable dans le PLU, ou si c'est juste parfois juste monsieur le maire qui a dit ce bâtiment, je veux le conserver, c'est qu'il y a toujours une volonté de le conserver. Et derrière, dans le cadre de l'équilibre économique qu'on peut trouver, c'est vrai que quand on est sur des marchés comme ceux qu'on a vus, avec des coûts de travaux comme ceux qu'on a vus, dans ce cas-là, c'est assez indispensable de pouvoir bénéficier de ce levier. C'est un des leviers qui existent, c'est pas le seul. Il n'est pas tout le temps nécessaire. Il y a certaines villes, collectivités, types de bâtiments où c'est pas nécessaire. On arrive à s'en sortir sans avec un modèle économique d'opérateur assez classique. Mais pour tous les sujets que je viens d'évoquer, sont inscrits au titre des monuments historiques. En faisant la focale sur ce type de bâtiment très dégradé, très gros, et souvent, malgré tout, un petit peu en périphérie, pas dans le centre, pas dans le cœur de ville, ce levier devient assez indispensable pour, en termes de prix de revient pour l'acquéreur final, retomber sur des niveaux de marché qui sont cohérents.
Ce sont des programmations mixtes ou c'est que du produit libre?
Alors ça dépend des fois. Ça dépend de ce qu'on appelle aussi par programmation mixte. Programmation mixte, dans ces opérations-là, elle est très souvent mixte, notamment pour les pieds d'immeuble. Et quand on est dans le cadre d'une opération d'aménagement, on se fond aussi dans l'opération d'aménagement global. Donc du coup, on intervient en fait souvent sur la partie qui est identifiée en logement. Parfois, on prend tout le bâtiment, mais on se fond dans une programmation qui est déjà plus ou moins établie.
Tu parlais de la programmation logement.
Là, ça dépend de la volonté. Il y a dans plusieurs de nos opérations une partie sociale. Ça dépend des cas de figure. Dans les 3-4 opérations que j'ai montrées, il y en avait 2 sur 4 donc à Arras et à Douai, où il y a un mix entre logement classique, résidence senior et logement typé étudiant jeune travailleur. Et sur l'opération de Noisiel et Grand Moulin de Paris, on intègre aussi du social. Alors le social, la question c'est souvent où on le place. Il est souvent assez difficile de le mettre dans la partie réhabilité, pas que pour des sujets économiques, pour des sujets de cahier des charges aussi. Des charges, fonctionnement, etc. Et sur des opérations comme ça, on arrive toujours à trouver une solution. Sur le Grand Moulin de Paris, c'est la Marquette et Lille, on a réussi en fait à intégrer le logement social soit dans des bâtiments neufs à côté, qui sont dans les perspectives que j'ai montrées, soit dans quelques bâtiments réhabilités, on va dire un peu plus abîmés, où on pouvait un peu plus jouer avec l'intérieur.
Oui, bonjour, effectivement, je suis là. Donc bonjour à tous, je suis Monsieur Payet, je suis paysagiste et chercheur pour l'intercommunalité de l'UDEAC, chercheur CIFRE. Donc je vais, déjà merci pour la complémentarité de vos présentations, je vais jouer le pendant de tout cela. Nous sommes au centre Bretagne, l'UDEAC communauté, nous sommes loin du trait de côte, nous ne bénéficions pas a priori de toute l'attractivité des territoires qui sont présentés. Donc ma question c'est toute simple, c'est... Avez-vous des rapports d'expérience et d'expérience sur des territoires, pas forcément dans des métropoles, dans des territoires peut-être plus ruraux, plus reculés? Et deuxième question, seriez-vous éventuellement intéressé pour prendre part à ces territoires-là qui, a priori, sont moins visibles et moins attractifs? Merci.
Moi, je voudrais apporter un élément de réponse parce que avec une vision un peu métropole lilloise. Bon, métropole lilloise, Lille, c'est une capitale régionale, dynamique, puissante, mais néanmoins, dans l'île intramuros, il y a des pourcentages de pauvreté et qui classent certains quartiers dans le top 10 national des quartiers en difficulté.
Si vous prenez Roubaix, c'est qui est dans la métropole lilloise, d'accord, c'est la ville, une des villes les plus pauvres de France. Donc, c'est-à-dire que même dans le département et dans des métropoles très dynamiques, comme elles peuvent l'apparaître et comme elles le sont, on a des territoires qui peuvent être très contrastés, avec des écarts de marché immobilier qui, à Roubaix, peuvent être du simple au double, d'une rue à l'autre, on le constate. Donc, détrompez-vous, il a été évoqué Douai. Je crois qu'Arnaud a été très clair en disant mais c'est pas une ville qui attire les promoteurs a priori, parce que on est dans le bassin minier, ce sont des villes qui ont subi plein fouet la déprise industrielle, et on est sur des marchés immobiliers faibles à atone. Donc on est aussi sur des montages qui sont intéressants et compliqués, où il y a un mariage nécessaire avec les collectivités, les partenaires, pour trouver un modèle économique qui n'existe pas de fait, si on s'en réfère à un modèle économique complètement vert et libéral. Oui, bien sûr. Hein.
Je peux apporter un petit complément de réponse, la réponse est tout simplement oui. Après, ça ne veut pas dire qu'on saura le faire partout, mais j'ai deux éléments pour attester ça. La première, c'est... On a fait une qui me parle pas mal, c'est l'opération qu'on a livrée à Saint-Valery-en-Caux, dans le pays de Caux. Une opération où, franchement, on ne voit pas beaucoup d'opérations immobilières, mais il y avait un élément, un petit peu la pépite de la ville. Encore une fois, avec une volonté forte de Madame la maire à l'époque de sauver ce patrimoine-là. Et en plus, nos opérations, elles sont assez ciblées. C'était un couvent, le couvent des pénitentes, qu'on a réhabilité en une trentaine de logements, pas plus. Donc là, c'était vraiment une petite opération très ciblée où, dans la réflexion que j'ai essayé de faire au début, on s'est dit à la fin, oui, c'est bon, on y arrivera, on saura trouver des acquéreurs. Alors après, c'est vrai que c'était essentiellement des investisseurs, mais néanmoins, ça permet de créer du logement. Alors ce sera du locatif, mais c'est 30 logements locatifs. Bon, bah, c'est pas toute la ville, on transforme pas la ville en parc locatif. Mais c'était en adéquation, ça, donc ça... Créer du logement, sauver le bâtiment, et c'est une réussite pourtant de base, Saint-Valery-en-Caux. Quand on regarde au début, on se dit plutôt non. Et le deuxième élément de réponse, c'est que à travers notre développement, on intervient énormément, nous, depuis pas mal d'années, sur les villes moyennes, ou voire les petites villes de demain. On a vu beaucoup de... C'est là où je dis qu'on a une approche très différente des promoteurs classiques. On voit, après le Covid, beaucoup de promoteurs se pencher sur les villes moyennes. On sort un peu des métropoles, on va sur les villes moyennes parce que c'est devenu plus attractif. Nous, ça fait 4-5 ans qu'on intervient sur ce type de villes moyennes parce qu'on a réussi à trouver un équilibre économique. Ça ne veut pas dire qu'on le fera partout, mais ça fait bien longtemps qu'on est sorti des métropoles.
Merci. Alors, il y avait une dernière question. Voilà, peut-être là-bas, mais je vais...
Beaucoup, je vais faire vite. Sophie Massu, architecte des bâtiments de France en Seine-Saint-Denis, donc je vous ramène un peu en métropole. Mais évidemment, merci à tous pour vos présentations. Les sujets évoqués m'ont bien évidemment tous très intéressés, que ce soit la requalification des quartiers anciens dégradés ou d'autres sujets sur les monuments historiques, sur la reconversion des friches. On a tout ce qu'il faut en Seine-Saint-Denis, donc venez travailler chez nous aussi. Je sais que c'est probablement déjà un peu le cas, mais je ne connais pas toutes les opérations. J'avais peut-être une ou deux questions et on prolongera peut-être après. Sur y a-t-il un seuil, par exemple, notamment pour vous, Histoire et Patrimoine, en dessous duquel vous ne savez pas intervenir, par exemple, parce qu'on n'est pas toujours sur des grands territoires de friches industrielles, parfois sur un seul bâtiment. Et l'autre aussi, c'est en dehors vraiment des servitudes précises de monuments historiques, sur des bâtiments plus récents, je crois que vous êtes sur les tournures de la Nanterre, par exemple, est-ce qu'il y a du coup des particularités parce que vous n'avez pas accès aux défiscalisations qui sont spécifiques aux monuments historiques? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous avez comme levier ou comment vous vous en sortez? Parce que sur les grands ensembles, hein, sur tout ce qui est plus récent que le patrimoine protégé au titre des monuments historiques, c'est parfois plus compliqué.
Désolé, je crois que j'ai toutes les questions.
Oui.
Mais c'est ça, quand on est l'OVNI dans une réunion d'aménagement.
C'est pour ça que je vous ai laissé moins de temps, parce que je savais que...
Ah, c'est gentil. On a beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis. On a fait, à Saint-Denis même, on a d'autres très belles références, je ne peux pas les évoquer là, mais... ça ne va pas me revenir. Boulevard de la Libération, le gros bâtiment.
Dans quelle commune?
À Saint-Denis même. Coignet, pardon.
Ah,
on revient.
Ah,
le lac Poigné,
ah oui,
bien sûr. Oui, c'est nous, Poigné, c'est nous. Donc on a beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même, enfin à Saint-Ouen, Saint-Denis, Pantin, sur chaque fois des patrimoines très différents. Pardon.
La veuve Poigné, c'est ça.
Oui, non, c'est le bâtiment de vraiment toute la zone industrielle. Et Coigny avait construit ce bâtiment en fait à la base pour accueillir son personnel. Et en fait, Coigny, en vente industrielle, avait essayé de faire les premiers bâtiments en béton collectif. À l'époque, ça ne servait pas à ça, on était à l'époque d'Haussmann. Il a essayé de faire un bâtiment en béton collectif avec la règle d'Haussmann. Donc en fait, ça ressemble à un haussmannien. Enfin, plus maintenant, parce qu'il était sacrément dépigmenté, etc. Mais il avait fait les modernisations, mais c'était du béton partout, en fait, béton de l'époque, hein, du béton de pisé, c'était pas les bétons actuels. Et ce bâtiment monumental, on l'a, alors ça c'était sympa, il était inscrit, classé par son histoire, et on a fait bosser pas mal de bureaux d'études très, très spécifiques. Alors là, on était avec la DRAC depuis le début pour savoir comment on allait traiter ce bâtiment. On a fini par retrouver la composition du béton d'origine pour faire des systèmes de rustine. Certaines parties. Donc bref, on a beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, et pour répondre un peu plus à la question, sinon je vais être trop long, on n'a pas de jauge minimum, ça dépend aussi des territoires. À Saint-Denis, on est beaucoup intervenu en plein centre-ville, sur des petits bâtiments, où là, la problématique était différente, c'était vraiment la résorption de l'habitat indigne et insalubre, notamment dans les rues Gabriel-Péry, dont on a beaucoup parlé dernièrement, le 105, le 107, le 103, où là, c'était bâtiment par bâtiment, en concertation avec la ville et ses outils, c'est-à-dire que les bâtiments étaient bien souvent, c'était des copropriétés tenues par souvent des propriétaires un petit peu obscurs, squattés, etc. Donc là, on travaillait avec la ville, l'eau par l'eau. C'est un peu dur pour nous d'avoir la capacité d'acheter l'eau par l'eau, donc on se coordonne un petit peu avec la ville où on intervient quand la ville le maîtrise, pour qu'on y ait, c'était ça. Et quand l'immeuble est maîtrisé, nous on a un projet qui est bâti, et soit on l'achète, soit on répond à une consultation, mais on a un projet derrière, et on y arrive. On a fait des bâtiments pour mieux répondre à la question de la jauge minimale, 103, je crois qu'il faisait un peu moins de 10 logements. Donc quand on sait qu'on va avoir une intervention un peu commune, si on a une visibilité, ça va venir d'une nouvelle ville pour faire 10 logements, c'est un peu dur, mais après on est dans l'AREA, donc en fait on n'a pas de jauge. Et encore une fois, là on a ciblé des opérations de grande ampleur. Quand on est dans des centres-villes anciens, encore une fois on a la Serbe à Montpellier et M. le maire de Grasse, où là c'est vraiment des petits immeubles, des petits, parfois 5, 6 logements. Si on a une visibilité nécessaire pour avoir une équation économique un peu plus large, on sait traiter des petits immeubles, des notions économiques. Je crois qu'il y a une autre question.
Non, ce n'est pas protégé monument historique en fait.
Oui, mais j'ai répondu du coup
Merci. Pour terminer, peut-être à nos deux aménageurs, les conditions pour produire vos opérations cœur de ville et votre qualification de friche en deux mots.
Oui, moi je voulais juste compléter, mais ça va dans ce sens-là. C'est effectivement ce qui marche pas bien dans ce genre d'opération, à la fois sur Montpellier, sur un territoire qui est très attractif, sur des, je pense, des opérations que vous avez présentées aussi. C'est la programmation, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire venir des propriétaires occupants, puisque la fiscalité n'est pas forcément avantageuse pour les propriétaires occupants, c'est plutôt du locatif. Et donc du coup, c'est très bien, on réhabilite, on restructure, mais le peuplement, on a du mal à venir influer, et je vais mettre des guillemets, parce que c'est pas dans des endroits très attractifs comme Montpellier, où il y a une forte location est importante, enfin les coûts d'acquisition, mais les coûts d'acquisition plus le coût travaux, ben, on a du mal à trouver un propriétaire occupant, puisqu'il n'y a pas forcément de terrasse. On n'est pas sur du patrimoine historique où on arrive à trouver des terrasses, des extérieurs, et aujourd'hui c'est quelque chose d'important. On aurait du mal à avoir des parkings, et donc du coup ben, les propriétaires occupants, ils vont sur les zones d'extension en collectif ou malheureusement un peu plus loin en troisième ceinture, dans des villas, et on connaît toute la problématique qu'on a sur la densification de ces endroits. Donc effectivement, je pense que c'est une des vraies questions à se poser et à l'avenir à essayer d'y répondre.
Alors Guillaume, un mot peut-être.
Un petit mot sur le modèle économique, sur l'opération que je vous ai présentée. C'est une opération privée d'aménagement, donc qui n'est pas financé par les collectivités, mais son modèle économique en tant qu'opération d'aménagement est tout juste équilibré, voire déséquilibré. Si on n'avait pas une approche globale, si on la regardait que comme un aménageur, ce serait une opération difficilement réalisable. parce que c'est long, c'est risqué, ça dégage pas de marge, très peu d'honoraires, donc on n'arriverait pas à la, on n'arriverait pas à la développer. Dans notre approche de bailleur aménageur, c'est de l'approcher globalement et ça renvoie à la question de la création de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur se fait surtout sur l'immobilier, pas sur l'aménagement. Et du coup, on a approché le modèle de montage de cette opération qui permet d'aller chercher la valeur sur l'immobilier. Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est ensuite de monter des structures immobilières, des SCCV, dans lesquelles on s'associera aux promoteurs et qui nous permettent de retrouver une rentabilité et qui permettent de supporter le coût de l'aménagement sur la main.
Je pense qu'on a un peu débordé déjà, donc je vous propose moins de terminer. Merci de votre attention. Merci de votre attention.
Réussi à vous donner la parole et à préserver du temps pour la salle, ce que nous n'avions pas fait depuis longtemps. Donc bravo, et donc ça met tout de suite un petit peu d'exigence pour les suivants. Pour gagner un peu de temps, je vais proposer tout de suite à la fois à Jean Guillonny, qui est directeur adjoint du programme Action Cœur de Ville, qui va faire la transition avec la table ronde numéro 2, de nous rejoindre, ainsi que les intervenants pour la table ronde numéro 2. Monsieur le maire de Grasse, Yann Claire, le chef de projet Action Cœur de Ville et de la SPL Pays de Grasse Développement, Jean-Philippe Le Gall, qui est donc adjoint délégué au projet urbain de Libourne 2025, et puis Benoît Gandin d'Incité, et évidemment Claude Bertolino qui animera cette séquence suivante. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci.
Bien, merci beaucoup. Je vais laisser le temps pour s'installer. Merci beaucoup, merci au réseau pour cette invitation, à la DGLN, à ses coprésidents, Madame Debray, Monsieur Gravy. Et merci également aux intervenants précédents qui, en fait, ont plus que je n'imaginais, fait une transition absolument parfaite avec les enjeux de cœur de ville. Je salue la présence d'ailleurs de Monsieur le maire de Grasse qui. Fait partie de ces villes emblématiques d'ACV avec Douai, dont je vais vous reparler. C'était assez étonnant que ce soit cité. C'était pas coordonné, mais